Voyage littéraire. C'est Judith qui est avec vous pour cette émission de lecture et de découverte. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle escale dans les pages écrites par les auteurs de notre pays voironnais et de la région. Aujourd'hui, je vous emmène dans le futur, un futur proche, hypothétique, dans une ville fictive qui s'appelle Downtown. Et à Downtown, on oppose le centre-ville, riche, préservé, favorisé, et une périphérie qui, elle, est dévastée et soumise à la loi du plus fort. C'est là que se passe le roman Downtown 3013, qui est en fait une saga, écrite par Elodie Aknin Amis, qui est une autrice de notre région, puisqu'elle nous vient des environs de la Côte-Saint-André. Dans le premier tome de Downtown 3013, nous allons croiser Cal, qui est une jeune fille qui vient de ce centre-ville, et qui, pour rechercher son frère, va se retrouver dans cette périphérie dangereuse et va être recueillie par un gang qui va être sa seule chance de survie. Et ce gang est mené par un chef qui s'appelle Ziggy, qu'il va falloir convaincre. On y va ? Cal entre dans le garage. Elle s'assoit, toute penaude, sur le matelas. Ziggy lui a dit de le devancer. Il est allé chercher quelque chose et compte la rejoindre. Les yeux fixés sur la porte, elle attend. Elle réalise qu'elle a retrouvé son calme. Sans aucune raison, elle se sent en sécurité aux côtés de ce parfait inconnu. La poignée de la porte s'enclenche. Ziggy entre en refermant derrière lui. Il rejoint Cal et s'accroupit en lui tendant des petits sachets. Des biscuits de rationnement. « Tiens, mange !» Sans se faire prier, Cal déchire l'emballage et commence à dévorer. La première bouchée la fait tousser. « C'est sec !» Tellement sec. Elle s'étouffe. Ziggy lui tend la bouteille d'eau. En buvant, elle retrouve son souffle. « C'est pas bon, mais c'est plein de protéines », commente le borgne. « Ce n'est ni bon ni mauvais. Ça n'a pas de goût. Mais Cal a tellement faim que tout ce qui remplira son ventre sera bienvenu. » Au bout de quelques secondes, Ziggy se relève et va s'appuyer sur un des moteurs, en face du matelas. Il fixe Cal. Sa manière d'agir, de se tenir, de manger. Elle crève la dalle, mais à de bonnes manières. Elle se tient droite et déchire les papiers minutieusement. T'es pas d'ici. » Cal s'arrête net. Elle soutient le regard de Ziggy. Elle se rend compte de son impolitesse. Elle ne sait ni présenter, ni ne la remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. Elle devient rouge de honte. Posant son biscuit à côté d'elle, elle se recompose et fait face à Ziggy telle une petite fille modèle. « Merci de m'avoir sauvée, et soignée, et hébergée. » La liste est longue. Elle se sent de plus en plus gênée. Ziggy ne répond pas tout de suite. Il continue de la détailler un instant, avant de demander de but en blanc. « C'était qui, ce type ?» Il parle de Noxon. Sans aucun doute, Cal sent son cœur se serrer. Elle se doit de lui donner quelques explications. « Un ami, ou plutôt une connaissance de mon frère. » « Il a des fréquentations douteuses, ton frère. » Cal se mord la lèvre. « Je pensais qu'il savait où le trouver, qu'il pourrait m'aider à le retrouver. » Les larmes lui montent aux yeux. Ziggy ne s'en émeut pas, concentré sur l'histoire. « T'as perdu ton frère ?» Cal hoche la tête. Impossible pour elle de répondre autrement sans fondre en larmes. Ziggy attend qu'elle se calme. Il a rencontré cette fille il y a moins de 48 heures et il l'a vue pleurer 3 fois. Sa sœur Ney a dû pleurer autant de fois, voire moins, dans toute sa vie. Son comportement commence à le décontenancer. Il ne sait pas trop comment réagir face à ça. Il tente alors de la rassurer. « Ne te fais pas de soucis, je vais te ramener chez toi. » La réaction est à l'opposé du résultat attendu. Cal éclate en sanglots. Ziggy est paralysée. « Pourquoi réagit-elle ainsi ? Elle doit avoir mal quelque part. » Il s'accroupit de nouveau vers elle, il tend la main vers son épaule, mais n'ose pas la toucher de peur de la faire pleurer encore plus. Cal ouvre les yeux et l'aperçoit à travers ses larmes. Elle essaye de s'expliquer dans un effort. « Je n'ai plus d'endroit où aller. Je suis toute seule. » Elle pleure de plus belle. Ziggy n'aime pas ça. Du tout. Pleurer, c'est montrer sa faiblesse. Ça n'a pas sa place, en périphérie. Il retire un bout de son t-shirt de son jean et lui essuie les yeux avec, comme il l'aurait fait avec un enfant. La surprise fait cesser les larmes de Cal. Ziggy lui-même est étonné par sa propre attitude. « Ton frère a fait de la merde, tu te retrouves dehors, sans lui et sans toi, c'est ça ?» Cal hoche la tête. Ziggy a tout compris. Il s'appelle comment, ton frère ? Cal se souvient qu'Axel lui a dit de ne pas parler. Jamais. Ou plutôt le moins possible. Vu dans quelles emmerdes il s'est mis, Cal pense qu'il vaut mieux être discrète. Il a une vie bizarre, et Shirza se fait tout le temps du souci pour lui. Il n'est pas net, c'est certain. Elle baisse les yeux. Ziggy l'interroge. Tu ne peux pas le dire ? Cal secoue la tête embarrassée. Ziggy comprend. Il trouve ça même très bien. Il n'aime pas les gens qui parlent trop. Ils sont dangereux. Tu peux me dire au moins ton prénom ? Cal relève la tête, soulagée que Ziggy ne lui en veuille pas de ne pas avoir répondu pour Axel. Avec empressement, elle se présente. Calista. Enfin, personne ne m'appelle comme ça. Cal. Juste Cal. Ziggy est satisfait. Elle est coopérative. Ok, Cal. Et je ne me trompe pas si je dis que tu viens pas d'ici, n'est-ce pas ? Cal remue la tête négativement. Tu viens d'où ? De Downtown ? Sirius reste la bouche ouverte pendant quelques secondes. Tout le reste du groupe est stupéfait. Pfff, elle ment. Ney, les bras croisés contre un mur, lance un regard plein de mépris. Ney, tais-toi. Ziggy coupe net à sa remarque. Ils se sont tous réunis dans la salle du bas du hangar, là où ils ont installé une sorte de réchaud pour cuisiner et un petit point d'eau, après que Roy, Ziggy et Sirius aient mis en place un système d'épuration de l'eau du canal et un chauffage pour les hivers. Ils s'entassent alors tous là pour se tenir chaud. Le reste du temps, chacun s'est approprié des chambres aux étages supérieurs. La planque tient plus du squat que de la maison de plaisance. Mais ils ont tous un toit, à manger et une sécurité. Roy, assis sur une caisse, juste à côté de Sirius, lève la main. Dans ce genre de réunion, seuls Ziggy et Sirius ont le droit de parler librement, le chef et son second. Les autres peuvent y assister pour être informés, mais en silence. Et s'ils veulent prendre la parole, il faut la demander. En théorie. Bien sûr, car ça ne se passe jamais comme ça. Ziggy fait un petit signe à Roy, la lui accordant. Pourquoi elle mentirait ? Ney répond du tac au tac. Parce que c'est une menteuse, c'est tout, voilà. Ziggy commence à s'énerver. Ney, la ferme. Tu demandes à parler ou tu te tais ? Ney souffle bruyamment. Ziggy la rabroue en insistant. Je ne rigole pas, encore une fois, et tu sors de cette réunion. Ney fait la moue en ronchonnant. Sirius reprend sans tenir compte de l'incident. Je ne pense pas qu'elle mente. De toute façon, j'ai le matériel suffisant pour lire sa puce et déterminer son origine, donc on sera vite fixé. Si cette fille vient de Downtown et qu'elle n'a pas de casier, elle pourra circuler librement entre Downtown et la périph. Un grand silence plane dans la pièce. Tout le monde imagine le changement que ça pourrait apporter. Tout est hors de prix en périphérie. Et encore plus les produits de qualité, comme l'électronique et la bouffe qui viennent de Downtown. Le seul moyen d'y accéder est d'embaucher un agneau. Mais les tarifs sont prohibitifs. Avoir Cal sous le coude signifie qu'une chose. L'évolution et l'enrichissement du squat. Sirius pourra acheter des implants de qualité, et ils auront accès à des médicaments, à des soins, à de la nourriture, sans quémander à Dante. Tout ça les laisse rêveurs. Sirius conclut. Si elle bosse avec nous, tu auras ramené le gros lot, Ziggy. Ney, de son côté, sent son sang bouillonner dans ses veines. Ziggy lui jette un coup d'œil et regarde la main de sa sœur avec insistance. Si elle dit un mot sans lever cette foutue main, il va exploser. Ney ne baisse pas les yeux. Ses lèvres tremblent de frustration. Ziggy n'en peut plus et craque. Oui, Ney. Elle est trop gourde, elle a failli tomber dans le canal tout à l'heure. Elle ne sera pas foutue de faire une mission. Roy approuve d'un hochement de tête. Ziggy lui fait un signe du menton, l'autorisant à parler à son tour. Ouais, Ney a raison, elle a l'air un peu maladroite. Kamel lève la main. Elle est malade, non ? Elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours et dormi, non ? Il regarde si Ziggy cautionne, avant de poursuivre. Il faudrait lui laisser le temps de... Enfin, de se remettre, quoi. Avant de la tester. Sirius clôt le raisonnement poussif de Kamel. Tout le monde l'écoute. Ziggy, laisse du temps à la fille. Elle a vécu des choses difficiles. Qu'elle mange, qu'elle dorme, qu'elle se pose. Ça nous laissera le temps d'apprendre à la connaître aussi. Il marque un temps de pause. Et quand elle ira mieux... Ziggy poursuit. On lui fera passer le test. Voilà! Alors, j'ai un aveu à vous faire, j'ai triché un petit peu. J'ai rejoint deux extraits. qui forment une scène complète mais qui, dans le livre à l'origine, sont séparées par une petite digression. Mais je voulais vraiment vous lire cette scène en entier, puisque c'est la première scène où se rencontrent tous les personnages principaux de Downtown 3013. On y confronte cette petite ingénue, Cal, toute innocente et toute perdue, qui a tout perdu elle aussi, et ce groupe très dur, très violent, que constituent Ziggy et sa bande, et qui vivent dans un monde qui est dévasté et qui n'a qu'un objectif, c'est la survie. Et ils évoquent déjà toutes les difficultés qu'ils ont à affronter, le manque de nourriture, le manque de soins, le manque d'eau et la sécurité qui est leur priorité. Donc c'est un roman dystopique qui nous présente une version du futur dans laquelle les choses auraient vraiment très mal tourné, une version très noire, et qui nous permet de nous faire réfléchir et de nous mettre en garde sur la manière dont les choses pourraient tourner si on ne réagit pas à certains signaux d'alarme. Et c'est aussi une scène qui vous présente tous les personnages principaux confrontés pour la première fois et qui commencent à vous laisser entrevoir les rapports de force, les rapports d'alliance entre les uns et les autres, puisque c'est quand même ça qui fait le sel d'une saga et qui permet de la suivre sur la longueur, la manière dont on s'attache à tous ces personnages dans lesquels on va forcément en trouver un qui va nous parler et auquel on va beaucoup s'attacher. Cette saga, elle est signée Elodie Aknin Amis, le tome 3 est sorti en mars 2025, donc c'est tout frais. Et si cette lecture vous a plu, vous pouvez retrouver Elodie Aknin Amis sur tous ses réseaux. Le roman est disponible dans toutes les bonnes librairies sur commande. Il est déjà en stock à la librairie Colibri à Voiron, par exemple, mais pas seulement. Et vous pouvez bien sûr retrouver Elodie Aknin Amis dans pas mal de manifestations littéraires, de salons sur toute la région. Où est-ce que je vous emmène la prochaine fois? Et si je vous emmenais en prison? Oui, c'est une autre ambiance. En prison pour femmes, avec un nouveau roman. Ça vous dit? Prêt pour votre prochain voyage littéraire?